19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On démarre cette toute nouvelle semaine. Et oui, vous le savez, dans les informer, la formule n'a pas changé. Commenter, analyser et décrypter l'actualité en toute liberté d'expression. Au sommaire, ce que je vous propose, vous le savez, comme chaque soir ici même, sur Beur FM. Eh bien tout simplement, d'abord nous reviendrons sur notre invité. On l'appelait, souvenez-vous, l'OVNI de la diversité. Je veux parler de Yazid Sabeg. C'est lui qui a évidemment, sous Sarkozy, dirigé le commissariat de l'égalité des chances. On va revenir sur la représentation, mais également aussi la diversité, mais également aussi les quartiers populaires. Ça mérite plusieurs clochettes, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on fait demi-tour. Enfin, pardon, autre clochette. Machine arrière, mon Dieu, on va en parler avec Yazid Sabeg. Autre sommaire aussi également, vous le savez, c'est les trois sujets qui ont retenu notre attention. Eh bien, c'est les législatives. Alors Mélenchon, si tu nous écoutes, il paraît que la NUPES risque de dépasser Macron, donc la majorité présidentielle, dès le premier tour. Clochette. J'ose imaginer le contraire au second tour. Vous imaginez si... Non mais franchement, blague à part. Jean-Luc Mélenchon se retrouve Premier ministre, mais Emmanuel Macron, il deviendrait vert, non ? Tahache, clochette ! Bon, allez, second sujet qui a retenu notre attention. Vous le savez, nous irons direction Papendaye. Alors Papendaye, je le connais un peu. Je l'ai connu au musée donc, de l'immigration, chic type. Mais on reviendra évidemment sur ce cyclone de propos racistes. On va tenter, nous, de comprendre pour quelles raisons. Mais Papendaye aussi également sur l'anti-Blanquer. On a eu le droit à l'épisode chapitre Blanquer. Que va-t-il se passer donc avec cet anti-Blanquer ? Papendaye, c'est le sujet qui a retenu notre attention. Autre sujet, peut-il rester ou doit-il quitter le gouvernement ? Damien Abad, qui vient à peine évidemment d'être nommé, il a déjà deux plaintes qui datent évidemment d'il y a quelques années concernant des viols. Bon, alors il dit, attention, hein, il le dit, hein, c'est des révélations de Mediapart. Il dit, ce n'est pas avéré, pas prouvé, effectivement, jusqu'ici, la présomption d'innocence existe toujours. Clochette. Et enfin, 19h30, Maître Philippe Aurélien Neguère viendra avec son billet d'humeur nous apporter un éclairage sur l'actualité et son regard juridique. Et puis les débatteurs sont en place, ils sont ici, un conseiller régional. C'est Philippe Nadjiboyaki qui a changé de bord. Bon, on en parlera, vous allez nous l'annoncer. Vous allez nous l'annoncer ou pas ?
Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite ?
Il y a des discussions.
Il est devenu rouge. Il a une clochette. Il croyait que j'allais le balancer en l'entête. Il a eu peur. Il a eu peur. Vous avez vu la sœur Kétane, c'est vrai ou pas ? Il est devenu rouge. Il a eu peur que je balance, vous savez, le mouvement politique. Je vous jure, les amis auditeurs, il fait le grand écart, Philippe Nadjiboyaki. Ah si, si, il passe des verres, mais j'ose même pas vous dire où il atterrit. Non, je préfère rien dire. Ça, c'est double clochette. Le syndicaliste représentant, mais également auteur, Jimmy Dalidou, la grande gueule des informés.
Bonsoir à tous.
Ah, lui, en tout cas, il fait parler auprès des auditeurs. Vous savez que les auditeurs, vous, c'est une histoire maintenant qui se noue, hein.
Bah, c'est super, parce que je...
Ouais, l'enfant donne nez.
Ouais, ouais, tout à fait, dans le nez, bon. Destin.
Allez, c'est parti, les informer, c'est tout de suite en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'invité du jour.
Les informer, l'interview.
L'interview, c'est avec Yazid Sabeg. Ravi de vous recevoir, vous le savez. Je le disais tout à l'heure, Le Monde, vous avez titré l'OVNI de la diversité. Mon cher Yazid Sabeg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, confirmé, reconnu. Vous avez fait partie carrément de l'univers CAC 40. Vous avez été nommé par Nicolas Sarkozy, commissaire de l'égalité des chances, de la diversité. Bon, que retiendrons-nous aujourd'hui, quelques années après, évidemment, après avoir vécu ce chapitre Yazid Sabeg ? Dites-moi, franchement, parlons librement aujourd'hui.
Une immense régression sur une question centrale qui est la gestion de la diversité dans ce pays, et puis le traitement des inégalités.
Vous êtes amer.
Sociales. Amer, plus qu'amer, je suis surtout indigné.
Est-ce que je peux m'autoriser ce mot avec beaucoup de trivialité ? Vous êtes dégoûté.
Plus que dégoûté, je viens de dire indigné. Ça n'est pas digne, ce qu'on a fait de cette question, qui est le traitement de l'égalité, enfin l'égalité de traitement, la question des inégalités sociales, cumulées aux discriminations.
Alors que s'est-il passé alors, Yazid Sabeg? On a loupé un chapitre? On a loupé une séquence?
Non, je pense que l'improvisation, le règne de l'imposture a fait que ça a commencé avec François Fillon, ça s'est poursuivi avec Hollande et Macron. On a enterré cette question qui est une question nationale, une question centrale.
Oui, mais franchement, Sarkozy, autant, évidemment, on est pour, on est contre, il avait fait un véritable bond en avant concernant la question de la représentativité nationale, avec toute la composante de la diversité. Moi, quand je vous pose cette question qui est sous-jacente, maintenant elle avait été plus implicite, plus explicite, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis Sarkozy, Nicolas Sarkozy, que s'est-il passé? Pourquoi la question de la diversité n'est plus au cœur des préoccupations des Français, mais au cœur de notre politique aujourd'hui?
Mais je viens de vous répondre, c'est l'abandon. Ouais, l'abandon. On a abandonné ces populations. On a inventé ce concept étrange de.
Mais l'abandon jusqu'à quand alors? Mais ça fait 40 ans que on est abandonné.
Mais oui, ça plus que ça, malheureusement. Mais ça fait. C'est maintenant plus de 10 ans qu'il ne se passe plus rien dans ce domaine.
Alors,
on a même régressé.
Faut faire quoi?
J'ai été reçu par François Hollande au mois de septembre 2012.
Oui.
Je l'ai alerté sur la nécessité de poursuivre la politique de l'innovation urbaine. J'étais président de l'ANRU. J'étais président du comité d'évaluation et suivi de l'ANRU. Je suis allé lui dire qu'il fallait absolument doter la politique de la ville de moyens nouveaux, notamment pour la réussite éducative et pour la formation. Il m'a dit oui, je vais faire. 8 jours plus tard, héros et un secrétaire général qui s'appelait Macron, avec Madame Vallaud-Belkacem, tout simplement mis par terre la rénovation urbaine et la politique de la ville.
Et voilà, c'est quoi la raison évoquée?
Écoutez, on a la lutte contre la pauvreté devait prendre le pas sur le reste.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, bon, je le dis à votre place, qu'on est en train d'abandonner la politique de la ville?
Elle a été abandonnée. Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus.
Bah, écoutez,
Carl Olive, qu'on a reçu il y a peu de temps avec Nasser Kétan, il vient de dire que la politique de la ville.
Carl Olive est un élu de terrain de grande qualité. Il n'y a pas de doute qu'il y a une expérience, une sensibilité sur cette question. Je lui souhaite bien du plaisir de définir une politique, de l'imposer à ses collègues, à commencer par le budget.
Donc s'il n'y a plus de politique de la ville, c'est la mort des quartiers populaires.
Mais
annoncé.
Mais il y a longtemps qu'ils sont morts, les quartiers populaires. Il y a longtemps qu'on les a assassinés. Regardez ce qu'on a.
Ça m'inquiète ce que vous dites quand même, ça m'inquiète.
Le nombre de chantiers de rénovation urbaine, le nombre de chantiers de rénovation urbaine qui ont été lancés depuis 2012, il y a eu une immense régression. Le désengagement de l'État a commencé sous Fillon. L'État ne subventionne plus la rénovation urbaine.
Alors, Yazid Sabeg.
Nasser Kétan.
Par exemple.
Yazid Sabeg parle des guerres coloniales qui continuent et que les enfants de l'immigration qui habitent en majorité dans les quartiers subissent toujours cette espèce de guerre coloniale
de régression sociale.
De régression sociale et que incarnée. Dans ces quartiers, il n'y a même plus de pôle emploi.
Il n'y en a jamais eu.
Il n'y a pas d'agence pour l'emploi. et que finalement, on arrive à les diaboliser en parlant de territoire perdu de la République alors que c'est la République qui se perd elle-même. Puis on a inventé l'idéologie, hein, vous connaissez l'antisémitisme des quartiers, etc., etc., et qui fait qu'on a jeté l'opprobre sur toutes ces populations qui, elles, sont au centre de leur vie dans ces quartiers. Et on a un résultat explosif, à savoir aujourd'hui un front anti-Macron avec des troupes qui rejoignent le vote Mélenchon.
Bon, alors justement, Yazid Sabeg, je vous pose la question. Comment voyez-vous, quel est votre sentiment, quelle est votre impression sur la politique, justement, en direction des quartiers populaires, en direction de la question de l'égalité des chances, mais également aussi de la diversité, en direction de cette population des quartiers populaires? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Emmanuel Macron est à la hauteur, il fait mieux que Nicolas Sarkozy lorsque vous étiez, vous, nommé commissaire, donc chargé de l'égalité des chances? Une ministre, d'ailleurs, a été chargée de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, qu'on avait reçue ici même, sur ce plateau, à votre place. Elle disait, effectivement, qu'il fallait que le combat continue. Vous répondez quoi, vous? Qu'est-ce que vous pensez de la politique menée par Emmanuel Macron, par le chef de l'État?
Elle vous a parlé d'un combat. C'est elle qui a parlé d'un combat. C'est ce que vous venez de dire.
Oui, elle est à
monsieur. Vous permettez, je vais répondre. Je pense qu'une vraie politique de la ville, audacieuse, avec des objectifs précis, c'est-à-dire de rétablir l'égalité de traitement, c'est ce que je dis, c'est pas seulement une politique dite d'égalité des chances. C'est une obligation de moyens avec des stratégies dans le domaine urbain, la réussite éducative, de l'emploi. C'est une, voilà les trois composantes centrales. Je ne connais pas, franchement aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on fait dans ces domaines, dans les quartiers populaires. Je pense être un observateur avisé de ce qui s'y passe, mais je ne crois pas qu'on y fasse grand-chose. En tout état de cause, je serais curieux de savoir quels sont les montants qui sont consentis, parce qu'on dit
votre regard,
les fameux milliards dépensés, ce qui est une fausseté absolue.
Votre regard absolue sur la politique menée par Emmanuel Macron, par le chef de l'État.
Mais il n'a pas de politique.
Il n'y a pas de politique.
Mais il n'a pas de politique. Qu'on me la décrive, qu'on me la donne.
Vous êtes un déçu d'Emmanuel Macron ?
Je ne suis pas un de ses électeurs, donc je n'ai pas d'être déçu. Je ne vote pas Macron. Je suis très clair.
Est-ce qu'on peut connaître la raison ?
Ah, je n'aime pas l'imposture, notamment dans ce domaine.
Oh, c'est fort.
Dites-moi, Yazid Sabeg, aujourd'hui, quand on parle d'égalité des chances, quand on parle de diversité, puisque vous avez été, monsieur Diversité, commissaire, donc justement, au château, à l'Élysée, sous Nicolas Sarkozy. Que faut-il faire, selon vous, pour qu'on puisse, évidemment...
Il faut relancer la rénovation urbaine. Il faut relancer une grande politique de logement dans les quartiers, une lite pour une vraie... J'aimerais bien savoir ce que M. Olive va nous proposer. Hein, s'il est désigné, je le lui souhaite, hein, parce que je pense qu'il a une très bonne sensibilité. Qu'est-ce qu'il nous propose ?
Il y a deux noms qui circulent. Non, écoute, je ne vous l'apprends pas. Carl Olive et Olivier Klein.
Je le sais, puisque je l'ai lu.
Alors, vous nous l'annoncez officiellement.
Je me suis contenté de lire, mais je pense qu'il faut mettre un terme. Donc, il faut une politique de réussite éducative authentique. Il faut rétablir les jeunes dans des parcours de réussite éducative ou de formation. Voilà des sujets essentiels.
Vous êtes
il faut cesser d'insulter la communauté musulmane de ce pays. Cesser de la traiter et de l'infantiliser comme on le fait aujourd'hui, à longueur de journée. Sur vos consœurs et confrères qui sont sur les chaînes de télévision en direct.
Ils l'ont un peu compris ces derniers.
Écoutez, oh là là.
Yazid Sabeg a un peu raison à dire, parce que on n'arrête pas de dire aux jeunes, dites que vous aimez la France, mettez-vous en garde à vous, mais jamais on leur dit.
Vous savez,
on leur dit jamais.
C'est vrai, jamais on leur dit on les aime.
Un jour.
Et voilà.
Un jour, on m'a demandé l'injonction. Ça, c'est le propre également de nos politiques en France. L'injonction, c'est quelque chose qui est l'insulte et l'injonction. C'est la permanence du traitement de la communauté arabo-musulmane dans ce pays. Je ne suis pas un ultra, je ne suis pas un wookie, je suis tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui m'indigne, c'est l'injonction et l'insulte. Elle est permanente. Il faut que ça cesse. Ça, c'est le début. Un jour, un de vos confrères m'a posé la question, m'a dit, mais M. Sabeg, j'étais commissaire à la diversité, vous n'êtes pas... Est-ce que vous vous sentez tout à fait français ? Je ne vous sens pas tout à fait français.
Eh bien.
Je lui ai dit, mais de quoi s'agit-il ?
Ben oui.
Ma fierté d'appartenance nationale, elle est intacte. Je suis un français de...
C'est une question bizarre, permettez-moi.
Ben oui, mais bon. Mais il m'a posé la question.
Quatrième génération.
Mais il m'a dit... Mais finalement, je lui ai dit, vous avez un peu raison. Je vais vous le dire, je vais vous répondre, puisque vous avez l'occasion de le faire. Je suis français à 95%. Pas à 100%. À cause de votre regard, le regard que vous portez sur moi. Pas en totalité. Et vous savez, je vais vous dire deux choses qui sont importantes dans ma vie. La première, c'est qu'on ne peut pas être fier de son pays, la fierté d'appartenance nationale, si votre pays n'est pas fier de vous. C'est une première observation. La seconde, a trait à ce que vous avez fait de mes parents qui ont immigré ici.
Oui.
C'est que on ne peut pas aimer son pays si on n'aime pas son père.
Pas faux.
Voilà deux choses fondamentales. Et c'est ma sensibilité. Vous ne savez pas ce que c'est que les discriminations. Moi, je sais ce que c'est. Et je vous donne cette réponse. Il faut cesser l'invective. Il faut cesser l'insulte. Il faut cesser l'injonction.
On a une minute.
Et l'infantilisation des musulmans de ce pays. Il faut cesser.
Dites-moi, en quelques secondes, monsieur Yazid Sabeg, qu'est-ce que vous préconisez ? On est très écoutés, vous savez, dans le milieu de. Voilà, entre l'Élysée, etc.
Oui, enfin,
qu'est-ce que vous préconisez ?
Je ne sais pas s'ils écoutent.
Qu'est-ce que. Si, je vous promets.
Je ne suis pas. Non, écoutez. Entendre peut-être.
Ah oui, vous avez raison. Dites-moi, qu'est-ce que vous préconisez ?
Le bruit.
Qu'est-ce que vous préconisez pour en finir avec l'inégalité, pour en finir avec les discriminations, ce fameux plafond de verre, pour mieux évidemment amener cette chose qu'est l'égalité des chances, en quelques mots ?
Je pense qu'il faut d'abord rétablir, en termes d'image, une image positive à l'endroit de la communauté arabo-musulmane dans ce pays. Et les Noirs également, de la même manière. Ça, c'est essentiel. Okay. Ça, le président de la République a un devoir de le faire. Il le fait pas suffisamment. Ça s'appelle une question nationale. Au même titre que la sécurité routière, que le cancer, que les violences faites aux femmes. Ça, c'est une vraie question nationale. Ça, c'est une première chose. La deuxième, il faut une politique anti-ghetto, authentique. La diversité sociale par l'habitat. Authentique. Elle reste à faire. Elle reste à construire. Dans les très grandes villes françaises et dans les villes moyennes également. On a commencé le travail. Il est aujourd'hui interrompu. La deuxième, c'est une politique de réussite éducative authentique. Savez-vous que l'essentiel des lycées de la région Île-de-France sont à Paris ? Et qu'à Paris, il y a moins de 10% de la jeunesse scolarisable française qui y vit.
Absolument.
D'accord ? Combien y a-t-il de lycées en Seine-Saint-Denis où vivent 40% des plus jeunes Français ? Combien y en a ? Il y en a 2 ou 3. Ça n'est pas normal.
J'allais dire 5, 6.
L'éducation. Le président de la République dit que la Seine-Saint-Denis, c'est comme la Californie. Il ne connaît pas la Californie, à l'évidence, en disant ça. Pour comparer, je l'ai entendu le dire. Donc, ce que je vous dis, d'abord, une politique de survie et la formation. Combien de jeunes m'écrivent pour trouver des stages, pour travailler, pour apprendre, pour se sociabiliser, s'assimiler par le travail.
Absolument.
Puisque c'est le mot à la mode.
Merci, Yazid Sabeg. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Et merci de m'avoir reçu.
C'est un plaisir. Et l'ancien commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, qu'on appelait l'OVNI de la diversité sous Sarkozy. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Tout de suite, on se retrouve dans une poignée de minutes avec Philippe Nadji-Bouriaki et Jimmy Dalidou pour entamer les 3 sujets qui ont retenu notre attention. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Avec Philippe Nadji-Bouriaki, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Messieurs législatives, la majorité présidentielle et NUPES, attention, la NUP ou NUPES. Vous savez quoi, paraît-il, que la NUP ou NUPES risque d'être légèrement devant la majorité présidentielle dès le premier tour. Que cela vous inspire-t-il? Mais surtout, comment doit-on l'interpréter, Philippe Nadji-Bouriaki, ensuite Jimmy Dalidou?
Avec le jeu des alliances, etc., c'est quelque chose qui peut être possible dans certains endroits, surtout dans les secteurs où ils sont fléchés entre guillemets à gauche, même si j'aime pas ce mot-là, tu le sais, Adil. Mais je rappellerai qu'il y a 2 tours. Et c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je m'en fous, moi, d'être le premier au premier tour. Si je suis le deuxième au deuxième tour, ça m'intéresse pas. Et donc, le report des voix, ok, certes, tu fais 25, 30 au premier tour, mais t'as plus de réserve de voix au deuxième tour.
C'est ça.
Et donc, t'as les gens d'extrême droite qui n'hésiteront pas à faire barrage dès qu'ils verront un insoumis ou un communiste ou un écologiste. Et t'as des gens de la social-démocratie, d'autres qui ont voté Jadot au premier tour, qui ne voteront pas pour un insoumis. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, moi, sur Orly. Là, il y a un communiqué qui va sortir en commun avec Europe Écologie Les Verts. D'Orly, où en plus on n'aime pas les méthodes de la France Insoumise qui font du porte-à-porte.
Vous tapez sur la France Insoumise.
Je tape parce que, je l'ai dit dès le départ, c'est une arnaque ambulante.
Ah, une arnaque ?
Je ne parle
le
pas.
Le fait ! Oh là là, ça ne dit pas fort. C'est bien parce qu'on a deux idées
Non, mais c'est une arnaque
divergent.
Dans le sens où regarde la représentation qui a voté pour la France Insoumise et qui va représenter la France Insoumise aux législatives. Elle est là, l'arnaque. Je parle pas des idéaux, des fondamentaux, des militants qui sont sur le terrain, qui traquent, qui collent, qui le font avec passion et avec ferveur pour changer
donc
le monde.
Donc Mélenchon, l'arnaque.
Cela, je le respecte. Oui, Mélenchon, il nous raconte une belle salade. Ok, il y a son cercle proche Sofia Chikirou, etc., qui sont dans des circos où normalement, même s'ils font pas campagne, ils gagnent. Mais les autres issus de la diversité, regarde le scandale d'Azin Taibi. C'est le plus gros scandale qui existe. Il a été porte-parole, il s'est fait flinguer par le PCM alors qu'il est maire PC, etc. Ça a été le premier à faire le grand écart, mais pas aussi grand que ça, mais qui a été jusqu'au bout de sa conviction. On dit ouais, mais la circo, en fin de compte, on va la donner au PC alors qu'il aurait pu l'exiger pour aller à LFI et la donner à Azin Taibi. Et aujourd'hui, on lui dit bon, bah, écoute, tu peux mettre la photo de Mélenchon, on t'embêtera pas, mais voilà, les communistes ont réclamé cette circo, on aura donné ton ego et
Jimmy Dalidou,
quelqu'un en face de toi.
Alors Jimmy Dalidou,
je suis pas sûr. Alors tu utilises le terme d'arnaque, je suis pas d'accord avec le terme que tu utilises. Ah, je pense pas qu'il y ait il y a pas d'arnaque dans ce système politique, surtout dans lequel le système capitaliste, il y a pas d'arnaque en fait, tout est lié, tout est cohérent, tout est coordonné, je dirais. Mais là où je te rejoins, c'est que là, pour revenir à ce que la question d'Adil, oui. Je pense que ça va être pour moi, ça reste le moindre mal, la NUP. Ça reste le moindre mal. Mais on est face à une contradiction.
Laquelle ?
Contradiction entre, d'un côté, pour la NUP, je parle bien. Contradiction entre, d'un côté, on va dire que la NUP se présenterait comme un peu la gauche plurielle régénérée. Mmh. Alors, pour qui il bosse concrètement ? D'un côté de la contradiction, on se présente comme une formation politique proche de la classe ouvrière et des couches populaires qui a été abandonnée ces 40 dernières années. On met en exergue une politique parfois qui prend un aspect anticapitaliste, voire parfois anti-capitalisme de monopole, et pour bien rallier à nous la classe ouvrière et les couches populaires. Mais dans l'autre aspect de la contradiction, c'est de rester, de se présenter politiquement parlant, comme étant toujours une opposition acceptable pour la bourgeoisie nationale. Donc moi, ce que je dis, c'est que...
C'est très
ah, ça, c'est intéressant, ça.
Ce que je dis, alors, je développe...
Non, parce mais là, que là, il est
je finis, parce que non, si, alors, admettons qu'il récupérait des postes au niveau du Parlement. Ainsi soit-il, il bascule au Parlement. Là, ils auront un véritable rôle d'initiative, avec des débats, un rôle de décision. Là, on va voir ce qu'ils vont mettre en application. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que
c'est vrai,
souvenez-vous, lors de la gauche plurielle, c'est quand même la gauche plurielle. C'est pas la droite qui a privatisé. C'est la gauche plurielle qui a amorcé les privatisations.
C'est vrai.
Les 35 heures, c'est
exact.
Eux. La privatisation, France Télécom, Thomson, Air France, c'est la gauche plurielle. Les retraites, ils avaient déjà commencé à ce niveau-là. Ils se présentaient comme la gauche qui allait sauver la classe ouvrière et les couches populaires. Donc moi, ce que je dis, c'est que attention.
Et là, vous donnez raison à Philippe Nadji Bouriaki sur le terme arnaque.
Non, c'est pas une arnaque, Non. C'est une social-démocratie. Et c'est tout le rôle de la social-démocratie. Alors, qu'on soit clair auprès des auditeurs, ça veut dire quoi, social-démocratie? Le rôle de la social-démocratie, c'est de faire un lien. C'est un lien organique, politique. Ils font le lien entre la classe ouvrière, les couches populaires, la majorité des Français. On reviendra pas sur la définition de ce qu'est le prolétariat, on l'a donné la dernière fois. Ils font le lien organique entre le peuple travailleur, la majorité des Français qui sont des travailleurs, et les monopoles capitalistes qui s'organisent dans un État. C'est ça leur rôle en tant que social-démocratie. Donc la NUP, il faut qu'ils soient clairs.
Les oligarques.
Bah oui, tout à fait.
J'ai fait exprès de lui dire ça.
Ils sont clairs quand tu vois le vote
d'abstention. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, les gilets jaunes puissance 10, là, ils vont sortir. On est en train de nettoyer les barricades pour qu'elles soient bien présentables quand ça va bien péter dans la rue. Et là, la NUP, il ne faudra pas qu'ils débarquent. Parce que si au Parlement, ils valident toutes les réformes qui ont été amorcées par tous les partis au service du capitalisme de monopole, là, ils vont en prendre un coup dans la gueule, hein, les gars de la NUP.
Ouais. Bon. Eh bien, dis donc, ça promet cette histoire-là. Alors, dites-moi, la NUP, donc, elle n'a pas ses chances pour, comme le disait si bien Jean-Luc Mélenchon, de se retrouver Premier ministre à la tête de l'exécutif.
Il faut arrêter de mentir aux gens.
Philippe Nadji Bouriaki.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont triplé ou quadruplé leur nombre
Donc ils vont peser.
De législateurs, parce qu'il va y avoir
s'ils créent trois commissions.
Peser, tant que si t'as en face de toi un groupe qui est majoritaire, tu pèses rien du tout. Tu vois, regarde, nous, on a fait 35%. Bon, on n'a que 6 élus, et donc en face de nous, on a 27 élus, ils votent tout ce qu'ils veulent au conseil municipal, etc. Donc non, tu vas avoir plus de fric pour ton parti politique, tu auras plus d'élus indemnisés qui renverseront une partie de leurs indemnités, tu retouches en plus 40 000 euros par indemnité à ton parti, Et d'ailleurs, c'est là où c'est l'arnaque, parce que Europe Écologie Les Verts, qui sont dans la NUP, leurs candidats vont être fléchés Europe Écologie Les Verts pour les indemnités, enfin pour les indemnités pour le financement des partis politiques. Ceux qui sont issus de la France Insoumise sont fléchés France Insoumise. Donc, tu vois, c'est une alliance de gens qui se détestaient il y a encore un mois, qui aujourd'hui, tu vois, Olivier Faure en train de claquer la bise à Mélenchon alors qu'il lui a vomi dessus pendant toute la campagne. Ne ouais. serait-ce que ça, elle est où ta dignité d'amour propre?
C'est pas pour avoir un sens. Et déontologiquement aussi, surtout.
Regarde, je vais te donner un exemple. D'ailleurs, je la diffuserai, je pense, demain, la vidéo. Il y a moins de deux mois, Julien Bayou était derrière, Yannick Jadot, sur la place de la République, en train d'applaudir quand Yannick Jadot a dit il faut armer les Ukrainiens, machin, etc. Il applaudissait comme un dingue. Tu vois, samedi, moi j'étais à la place de la République pour aller soutenir les Ukrainiens. Il y a eu la marche pour Monsanto. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, Raphaël Rémy-Leleu et Julien Bayou. Ils sont passés, évidemment, parce qu'il y avait un camion et c'était une marche autorisée sur la voie publique, mais ils sont passés à côté de nous, pas un regard, pas un mot pour les Ukrainiens. Wow. Donc le type, en l'espace d'un mois, mais regarde ses passes Facebook, il ne dit plus rien sur l'Ukraine.
Il a retourné sa veste, c'est ça que vous voulez dire?
Mais pire qu'il retourne sa veste, son pantalon.
Allez, 19h32. Attendez, messieurs, juste, je ne veux pas prendre du retard, s'il vous plaît. C'est le Quoi de Neuf, et comme tous les lundis, vous le savez, c'est notre cher maître Philippe Honegger.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Cher Ruben et associé, je le disais donc à l'antenne. Bonjour maître Philippe Honegger.
Bonjour.
Comment ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien.
Allez, on vous écoute, vous savez quoi? Pour votre billet, vous avez décidé de consacrer votre édito, eh bien, autour de Julien Abad, celui qui vient à peine d'être nommé au sein de cet exécutif, et le Burkini.
Oui, non mais en fait, c'était le premier conseil des ministres ce matin, et donc je regardais qui était autour de la table. On peut s'étonner.
Julien Abad, c'est Damien Abad.
Ouais,
excusez-moi, Damien Abad.
On peut s'étonner d'avoir quand même autour de cette table, je crois, quasiment une demi-douzaine de ceux qui sont au Conseil des ministres, qui sont soit sous le coup d'une mise en examen, soit d'une enquête. Oui. Un d'entre eux est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour un conflit d'intérêts. Un autre a été mis en cause. Il y a eu un classement sans suite récemment. Pour des faits d'agression sexuelle. Et puis, ce matin, enfin là, dans les jours qui viennent, on apprend qu'un nouveau monsieur Damien Abad, qui vient d'être débauché depuis les Républicains, qui vient de s'asseoir autour de cette table, est lui-même frappé, semble-t-il, par deux enquêtes, en tous les cas deux affaires de dénonciation pour des faits d'agression sexuelle. Venant s'ajouter, vous savez, à ce député, enfin celui qui avait été investi pour devenir député, pour être réélu, et qui lui-même a été condamné pour des violences faites aux femmes. Et on s'étonne, parce que, visiblement, la seule chose qui intéresse tout ce personnel politique depuis une semaine, c'est pas tellement la question de M. Damien Abad ou des autres, mais la manière dont les personnes vont s'habiller pour aller à la piscine cet été, parce que c'est vrai que c'est un sujet absolument fondamental.
Clochette.
Et avec cette question qui se pose, qui est de dire, non pas est-ce qu'il faut, parce qu'on a présenté le problème en disant, est-ce qu'il faut autoriser le burkini à la piscine. Mais la question n'est pas celle-là, c'est le point de vue du juriste que je vous donne. La question est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'interdire aux personnes de s'habiller comme ils le veulent à la piscine sur des questions de discrimination uniquement fondées sur de la discrimination qui est religieuse? Et pour ça, la réponse est extrêmement simple. Loi de la laïcité, application stricte. J'ai déjà répété beaucoup de fois sur votre antenne, mais il y a un certain nombre de temps, pas sur votre antenne d'ailleurs, qui visiblement ne comprennent pas. La loi sur la laïcité, elle garantit à chacun la possibilité de vivre sa religion le plus librement possible. Elle impose à l'État de vous protéger dans la manière dont vous exercez votre religion. Et donc, si votre religion ou votre considération philosophique ou un mode de vie que vous avez adopté, ça peut être l'écologie, ça peut être le survivalisme, ça peut être ce que vous voulez, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, vous amène à avoir une manière de vous vêtir, l'État doit protéger la manière dont vous voulez vous vêtir tant que ça ne gêne pas l'ordre public. Et donc la décision qui a été prise, c'est simplement d'appliquer le plus simplement possible la laïcité. Mais on se rend compte que, voyez, pourquoi est-ce que je vous parle de ça en lien avec ce qu'on a autour de la table des ministres? C'est parce qu'on se rend compte que le cœur du sujet, c'est encore une fois les femmes, le cœur des femmes, les violences faites aux femmes, la capacité qu'on laisse aux femmes de s'autodéterminer dans une société où depuis maintenant 70 ans, 80, elles ont le droit de vote, elles sont supposées être légales des hommes, elles sont supposées toucher un salaire équivalent. Oui. Et c'est très étonnant parce que on se dit, c'était censé être la priorité du gouvernement des 5 dernières années. On en est, semble-t-il, au même point, ou peut-être même encore pire, et on a ce nouveau quinquennat qui commence, et on se demande, mais quand est-ce que ça va bouger? Et je me demandais simplement, parce qu'il y en avait un, aujourd'hui, autour de la table des ministres, qui, lui, pour le coup, est pas frappé par des enquêtes, et pas mis en examen, et pas renvoyé devant la Cour de justice européenne, c'est monsieur Pape Ndiaye. Et je me disais qu'aujourd'hui, autour de cette table, il devait se sentir bien seul.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. Comme chaque lundi, c'est vrai, on apprend des choses avec Maître Philippe Henleguer. Je vous souhaite une excellente semaine, mon cher maître.
Merci.
Vous maître aussi. Philippe Henleguer, cher Ruben et associé, et son regard autour de l'actualité, mais surtout avec ce prisme juridique. 19h37, je vous donne la parole, Jimmy Dalidou, juste après la pub.
Ça marche.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h43, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, sachez-le. C'est ici que ça se passe, je redonne la parole à Jimmy Dalidou. Ouais. Jimmy Dalidou, alors concernant, avant de parler de Pape Ndiaye, potentiel... Jean-Luc Mélenchon qui peut potentiellement se retrouver Premier ministre.
Non, Premier ministre, non, ça je crois pas. Non, ça c'est un. Puis il faut savoir ce qu'il veut, le Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il se présente comme une opposition au pouvoir en place, puis ensuite il veut être son Premier ministre. Donc alors, il faut savoir ce qu'on veut. Non, par contre, je pense que là où la NUP déconne un petit peu, c'est que alors qu'il se présente comme en tout cas la principale force, la future force politique au service du peuple travailleur, il faut qu'il donne des garanties sociales. Moi, je vois pas vraiment de garantie sociale.
Le SMIC.
Le SMIC, par exemple, le SMIC, qu'on cesse d'indexer le SMIC sur la croissance et qu'il soit enfin que les salaires, d'une manière générale, soient indexés sur les prix. Sur les prix. Est-ce qu'il y a une garantie sociale concernant les retraites, le nombre d'annuités? Est-ce que les formations et les années de formation, etc., seront intégrées dans le système de calcul des retraites? Quelle retraite on veut? Est-ce qu'on reste sur une retraite à points un peu modifiée, machin, ou est-ce qu'on revient à la retraite comme avant, avec un âge de départ à quel âge? Il y a pas de garantie à ce niveau-là. Quelle est la garantie sociale qui nous permette de penser qu'ils feront pas la même chose que la gauche plurielle? C'est-à-dire niquer la gueule aux travailleurs. Concrètement parlant, quelle est la garantie sociale, Steve? Voilà, il y en a pas.
Ah oui, il a raison, Philippe Najibou.
Il y en a pas. Donc, moi, je pense que il y a aussi un problème de personnage dans le problème de la France insoumise.
Ouais, c'était correct.
Jean-Luc Mélenchon, il a un côté populiste. Il a un côté très populiste. Tout tourne autour de ce personnage. Non, mais je pense qu'il faut qu'ils apportent ces garanties sociales sur l'Union européenne aussi. Alors ils nous disent on va désobéir à l'Union européenne. Attends, mais tu vas désobéir comment? Une Commission européenne, à des instances européennes qui sont toutes puissantes, qui imposent des directives aux nations, des nations qui transposent dans leur loi nationale des directives c'est pas un conseil, hein. C'est une obligation. Alors les commissions européennes, etc., les instances te disent maintenant tu mettras ça dans ta loi en France, et si tu le fais pas, tu reçois une amende, et derrière on te désosse politiquement parlant. Donc alors ils disent, la NUP dit on va désobéir. Suffit pas. Soit on sort de l'ordre, soit on n'en ressort pas, en fait.
Messieurs, nous allons entamer ce second sujet. Déjà 19h46. Allez, nous allons parler, vous savez, du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, monsieur Pape Ndiaye, qui est un éminent universitaire, brillantissime d'ailleurs, historien, qui se retrouve à la tête donc de ce ministère, à la rue de Grenelle. Il fait face en ce moment même d'une déferlante, évidemment, derrière une déferlance propos racistes envers lui. Que se passe-t-il? Notamment l'extrême droite, la droite aussi, sitôt nommée. Pour quelle raison on peut expliquer sitôt nommée reçoit? Comment dirais-je? J'avais employé ce terme de cyclone de propos racisme. C'est exactement ça. Jimmy Dalidou.
Ouais, alors moi, je pense qu'il y a une confusion entre le personnage, et la, enfin l'homme, la personne, et la politique qui représente. Encore une fois, ce n'est pas l'homme qui fait foi, c'est la fonction qui fait foi. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce gars-là, il arrive, il prend un ministère, il va pas faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, parce qu'il le veut.
Non,
non, il va arriver, il a une feuille de route. Il y a une feuille de route.
Et puis surtout, ça, c'est, il est là ça,
c'est
clair.
La feuille de route pour l'éducation nationale, c'est quoi? C'est l'autonomisation des écoles, donc privatisation des écoles. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des, qu'on paye les écoles, que cette école gratuite cesse. Ce qu'ils veulent, c'est le tout profit. Donc, tout, c'est l'hôtel du profit. Ouais, donc, l'école n'échappera pas à cette logique destructrice, du capitalisme de monopole. C'est l'autonomisation des écoles et la personnification des parcours pour pouvoir faire ensuite un tri social. Mmh. L'école devient, vous le savez, pour moi, j'ai toujours dit que l'école était un centre de tri socio-professionnel pour les monopoles capitalistes. Mmh. De plus, souvenons-nous que le 13 janvier dernier, les enseignants étaient grévistes à plus de 70%. Donc, et c'était bien Jean-Michel Blanquer qui était alors ministre. Mmh. Donc, il ne pouvait pas mettre en place un ministre, en tout cas, l'homme qui aurait été. Il faut qu'il présente un personnage différent, même si la politique qui sera mise en pratique par M. Ndiaye restera la même que Jean-Michel Blanquer.
Vous êtes convaincu?
C'est pareil.
C'est pareil. Philippe Ndiboyeki.
Oui, on assiste à une séance de déstabilisation parce que on est à 3 semaines maintenant des législatives et donc on essaye vraiment de fracasser la machine en marche par tous les stratagèmes et on va voir après le développement de ce qu'on dit. Oui, la fachosphère aujourd'hui, elle donne le là. On l'a bien vu pendant la campagne électorale.
Pourquoi? C'est parce qu'il est noir qui pose problème? Mais franchement, je vous pose carrément la question.
Bien sûr qu'il est noir, ça pose problème en France. Ouais. Il est noir, mais il faut bien se dire une chose. Tu l'as dit toi-même, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. La fachosphère en France, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France impérialiste a besoin du fascisme. Arrêtons avec ça. Le fascisme, c'est quoi le fascisme? Le fascisme, c'est le chien de garde de la dictature du capital. J'invente rien, c'est gravé dans l'histoire. Si vous revenez sur l'histoire du parti nazi, du parti fasciste, de Pinochet au Chili, c'est toujours pareil. C'est le chien de garde des forces du capital lorsqu'il y a un danger insurrectionnel. Et donc la France impérialiste a besoin du fascisme. Qu'on arrête avec ça, ils ont besoin du fascisme. Et donc à partir du moment où vous avez un homme qui est noir ou arabe et qui réussit, ça pose problème pour les fachos.
C'est plus un symbole.
Bah, mais bien sûr. Alors il faudrait qu'il.
Mais c'est quand même l'égalité des chances là. C'est un véritable combat pour l'égalité des chances.
Moi, j'ai jamais cru.
La méritocratie.
J'ai jamais cru à l'égalité des chances.
Pourquoi vous avez jamais cru?
Non, parce que
la méritocratie.
Bah non, mais en fait, faut.
Pourquoi l'égalité?
Vous penchez sur les. Non mais. Enfin, encore une fois, est-ce que ce gars-là, je reviendrai pas sur l'homme en lui-même. Ah mais à partir du moment où vous restez une opposition acceptable pour la classe des plus riches, pour la classe au pouvoir, alors vous pouvez effectivement réussir.
C'est l'égalité des chances.
Mais pourquoi Pape Ndiaye, il a été choisi? Parce que ce gars-là, il a un discours, il a eu un moment un discours un petit peu à gauche parce qu'il a visé les violences policières qui existaient évidemment. Et à un moment, il reste une opposition acceptable.
On parle bien d'égalité des chances là, de méritocratie.
C'est un gars qui est issu de la méritocratie macroniste.
Philippe Ndiaye.
Et qui mettra en place la politique de Macron.
Voilà, ça c'est clair. Ça, ce qui est normal quand tu es le ministre d'un président, surtout nommé avant une nouvelle Assemblée nationale, tu mettras la politique de ton patron, sinon ouais. Tu démissionnes et point barre.
Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'est une question de symbole, d'égalité des chances, de méritocratie?
Non, mais c'est un symbole. Qui répulse les fachos et la fachosphère dans notre pays, qui, quand ils nous voient comme un danger, comme le grand remplacement, mais pas comme des enfants de la France qui sont une chance et une richesse de leur diversité, comme nos amis bretons ou nos amis d'Occitanie qui sont riches de leur diversité, ou nos amis corses. Aujourd'hui, il représente. Alors, il y a eu quelques propos le concernant, et puis. Sur lequel on peut discuter, hein, sur le néocolonialisme, etc., puisqu'il a été le président du musée et on le traite d'indigéniste. De toute façon,
spécialiste de l'histoire américaine, apparemment. Ouais,
voilà. Non, mais c'est surtout le mot indigéniste. Dès que t'es un petit peu basané, t'es forcément indigéniste lorsque tu réclames la justice et la vérité. Mais ce qui est plus flagrant, je pense qu'il a fait quand même un bon coup Macron là-dessus, en disant bah vous la NUPS là, qui nous racontait que vous êtes la diversité, que les quartiers populaires ont voté pour vous.
Bah moi,
je vous mets la barre.
Je voudrais quand même éclaircir un point. parce que
lequel
il faudrait aussi qu'on fasse pas moi j'en ai marre de cette confusion qui consiste à dire alors évidemment la fachosphère existe, il vise toujours les origines ethniques, etc., etc. Mais on vient de dire aussi que le fascisme était le chien de garde du capital, donc il a d'abord une orientation de classe. Concrètement, moi je suis anticapitaliste. J'ai en face de moi, parce que tout à l'heure tu disais, il représente les qualités des chances, il vient, etc., etc., bah oui, donc on devrait forcément accepter sa politique qu'il va mettre en application. En gros, c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, si j'ai en face de moi, en tant qu'anticapitaliste, si j'ai en face de moi un noir, un arabe, un gars des LGBT, et qui me dit, moi je suis capitaliste et je suis pour l'exploitation de l'homme par l'homme, ben il sera mon ennemi de classe, qu'il soit noir ou arabe ou membre des LGBT. Conserver une base de classe.
Catégorie, Jimmy.
Très clair.
Non, mais là, c'est notre
donc, je condamne le fait que l'homme soit condamné parce qu'il est noir, provenant de la fachosphère, mais en même temps, il va mettre en application une orientation, une politique de classe.
Tu mets en face à face une lutte des classes avec une lutte raciale. C'est deux choses différentes. Effectivement, quelqu'un qui me ressemble ethniquement.
Vois bien que la lutte des races est substituée à la lutte des classes ces derniers temps.
Non, mais attends, c'est un peu plus complexe que ça.
Je suis militant depuis 21 ans, je te dis que c'est complexe.
Autour de ça, parce que là, on n'aura malheureusement pas le temps, mais c'est pas du tout le même sujet. Là, aujourd'hui, il n'est pas attaqué sur une lutte des classes. Et on l'attaquera après sur une lutte des classes, sans aucun problème, si tu veux. Et on l'attaquera même ensemble, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, c'est une lutte de race, et c'est parce que il est noir, et c'est la réalité que la fachosphère se fait plaisir dessus.
Oui, ça, c'est vrai.
Messieurs, juste une question avant de rendre l'antenne. Je voudrais vous poser la question. Une personnalité qui est accusée de violence sexuelle. On en parlait tout à l'heure. Damien Abad, qui est le tout nouveau, évidemment, ministre, dans ce tout nouveau gouvernement. Doit-il rester? Doit-il être maintenu au gouvernement? En une phrase.
C'est vraiment un sujet qui pose un problème moral, social, sociétal, politique qui a été au niveau. Pourquoi? Parce que deux choses. Soit elle est coupable, et alors on est dirigé par des criminels. Parce que je vous rappellerai que le viol, c'est l'article 222-23 du code pénal. Donc d'un côté, s'il est coupable, il est criminel, et alors on est dirigé par des criminels. Soit elle est non coupable, alors dans ce cas-là, ça veut dire que la question de la femme...
Ouais.
La question de la femme est utilisée comme outil de répression à des fins politiques.
Allez, en 30 secondes. Oui,
dans les deux cas, c'est un problème.
Article 9 de la Constitution, toute personne est présumée innocente tant qu'il n'est pas jugé coupable.
Merci messieurs, merci à vous Jimmy Dalidou, merci
à tous.
À Philippe Nadjiboyaki, qui on retrouve dans une poignée de minutes. Bilal Nedman avec Time Sport et son programme, notamment la conférence de presse tout à l'heure avec Nasser El-Khelaifi, le président du PSG, mais également aussi Kylian Mbappé qui reste au PSG. Demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.